assis à tes pieds. C'est là que je veux être. C'est dans tes bras, je me sens chez moi. Touché par ta grâce, fixé par ton regard, je ne saurais résister à ta tendresse. Je t'aime de tout mon cœur, Abba Père, suis amoureux de toi, roi. Mon cœur ne bat pour toi, précieux Jésus, suis amoureux de toi, roi. La fois passée, on nous a parlé sur les 3D. L'orateur a épinglé beaucoup de choses, mais il a parlé sur les premiers dés étaient des quoi? Des coups? Découvrir. Durant cette semaine, j'ai appris à découvrir que je pouvais encore je pouvais encore croire en Dieu. Je pouvais encore croire à sa bonté, croire à son miracle. Parce qu'on a découvert en moi que j'avais une maladie que je ne savais pas. Une maladie des cœurs. Mais j'ai cru en Dieu qui peut guérir. Et je crois en Dieu qui peut guérir. Et c'est comme ça que cet après-midi, au moment où l'orateur va commencer déjà à monter pour passer, j'aimerais encourager une personne pour lui dire qu'il ne s'agit pas seulement de découvrir, mais de développer aussi. Cet après-midi, on veut parler de développer. Alors le Seigneur a mis en moi des paroles pour nous encourager avant que nous puissions commencer. Pas la force, pas les nombres. Juste 300 contre une armée sans nombre. Pas la gloire, pas les armes. Juste un Dieu qui déverse sa flamme. Écoute bien. Développer, c'est croire quand tout dit le contraire. Développer, c'est marcher même avec peur dans les nerfs. Développer, c'est oser quand le monde te dit d'arrêter. C'est voir en toi ce que Dieu a déjà déclaré. Alors, lève-toi. Oui, toi. Dieu ne cherche pas le fort. Il choisit le faible. Dieu ne regarde pas ton passé, mais il prépare pour toi l'éternel. Cet après-midi, j'aimerais que tu puisses savoir que Dieu est en train de préparer pour toi quelque chose de bon et de parfait. Bienvenue dans les 3D développés.
Qu'on peut acclamer plus fort que ça, encourager le frère Jonathan pour ce témoignage à travers la poésie. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons encore une fois devant toi cet après-midi pour te prier, ô Dieu, afin que tu puisses encore une fois nous parler. Nous prions que ce moment soit béni par toi. Nous prions, ô Dieu, que tu puisses te révéler à nous encore une fois et nous aider, Seigneur, à développer tout ce que tu as déposé en nous. Enfin, Père éternel, que nous soyons utiles pour toute bonne œuvre que tu as prévue pour nous. Sois béni, sois glorifié, ô Dieu, parce que tu vas le faire, car c'est dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est encore une fois pour moi une joie, un privilège de me retrouver devant vous. Bonjour, vous allez bien? Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'enseignements, les 3D. Vous vous rappelez de ce que 3D signifie, n'est-ce pas? Le premier D, c'est pour... c'est comme si vous êtes fatigué déjà. Il faut le parler avec énergie. Le premier D, c'est pour... Deuxième, c'est pour... Développer. Le troisième, c'est pour... Déployer. Voilà. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de développer. Mais dimanche passé, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons introduit cette série en parlant du premier D qui est celui de découvrir. Découvrir, nous avons dit que Dieu nous a créés avec un potentiel. Dieu a créé chacun d'entre nous avec quelque chose en lui, une capacité dont il a besoin pour accomplir tous ses dons pourquoi Dieu l'a créé. Nous avons dit que toute chose que Dieu a créée a un potentiel. Un grain peut produire un arbre et même une forêt, une vache, un troupeau, du bois. Avec les bois là que nous voyons, nous pouvons avoir des meubles. Et les matières premières nous permettent de construire des matériels tels que les baffles qu'on voit dans cette église, tels que la télé, l'écran qui se trouve derrière moi, ainsi de suite. Nous avons aussi dit que dans une fille, une jeune fille, il y a une potentielle femme. Et dans chaque jeune garçon, il y a un potentiel homme. Donc à chacun d'entre nous, il y a un potentiel, il y a des choses que Dieu a déposées. Et ces choses sont cachées. Pour les découvrir, nous devons nous rapprocher de Dieu. Et il y a beaucoup d'autres choses que j'ai dites. Le message complet est encore sur notre site. Il est aussi sur notre page Facebook. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez aller les suivre et savoir comment vous pouvez découvrir votre potentiel. Alors, j'ai promis de vous montrer quelques-uns de mes tableaux. Parce que je vous ai dit que Dieu a mis tellement de choses en nous. Nous sommes capables de beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous pouvez me voir, je peux prêcher, n'est-ce pas? Je peux conduire un culte, je peux chanter un peu, pas très très bien, mais bon, je me débrouille aussi. Je suis un ingénieur, et donc toutes ces choses-là, mais je suis aussi un artiste, vous voyez un peu? Parce qu'en nous, il y a beaucoup de choses. Donc, vous comprenez qu'en nous, hein, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, et si nous les faisons ressortir, si nous nous exposons à un processus, nous pouvons facilement les développer. Et être étonné de tout ce que nous pouvons accomplir si seulement nous développons notre potentiel. Ça, c'est mon premier tableau. On peut passer à l'image suivante. C'était la première fois que j'ai fait de la peinture. Et la première fois. Et ça, c'est l'image finale. Comprenez? Parce qu'il faut vous défier. Vous êtes appelé à vous défier. Vous êtes appelé à essayer des choses. Moi, j'ai essayé beaucoup de choses. Il y a mon instructeur de la guitare qui est là. Alléluia, pasteur Alain. Je sais qu'on n'a pas encore fini, mais je reviendrai encore. Donc, j'essaye beaucoup de choses. Et petit à petit, quand tu essayes, tu échoues, tu continues, tu vas finir par avoir de très bons résultats. Ça, c'est un tableau que j'ai peint en 2017, imaginez. Imaginez maintenant, si j'ai continué à peindre jusqu'à aujourd'hui, à quel niveau j'essaierai. Vous voyez un peu, parce qu'à chacun d'entre nous, il y a du potentiel. Je ne sais pas si l'image du deuxième est là. Ça, c'est le deuxième. Malheureusement, je n'ai pas l'image du produit fini. C'est un tableau que j'ai offert à un ami, à moi, et il l'a dans sa maison. Tout ça, ce sont des choses que Dieu a déposées à chacun d'entre nous. Juste pour vous dire, je vous montre toutes ces choses, pas pour me vanter, mais pour vous dire qu'il y a beaucoup plus en nous que nous ne réalisons. Beaucoup de choses. Chacun d'entre vous est capable de plusieurs choses. Vous ne les réalisez même pas. Vous avez juste besoin de vous soumettre à un processus de développement, à essayer, vous défier, et vous verrez que vous pouvez accomplir beaucoup de choses. Et donc, nous avons dit que le potentiel, c'est ce que nous pouvons être et que nous ne sommes pas encore. Nous avons aussi dit que le potentiel est caché et doit être recherché. Nous avons aussi dit que le potentiel, c'est ce que nous pouvons accomplir, mais que nous n'avons pas encore fait. OK? C'est ce que nous pouvons accomplir et que nous n'avons pas encore fait. Et le dimanche passé, j'ai conclu en disant que en chaque fille, il y a une femme, en chaque garçon, il y a un homme. Alors, je sais que ça peut créer un peu de débat, un peu de confusion, et j'ai trouvé un article très intéressant en ligne sur le Huffington Post qui donne un peu quand même quelques éléments de différence entre ce qu'est une fille et ce qu'est une femme. Alors, je vais vous les lire. Il y a aussi la différence entre un garçon et un homme. Donc, chacun d'entre nous va se situer. Je ne sais pas si on commence avec les hommes ou les femmes. Les femmes, hein? Oui, en anglais, on dit « ladies first ». Donc, on commence avec les femmes. Il faut savoir que les garçons sont attirés par les filles et les hommes sont attirés par les femmes. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir. Et ce n'est pas une question d'âge, mais c'est plutôt une question de maturité, de vision de la vie, mais aussi du stade de la vie où on se retrouve. Parce qu'en dépit de leur âge, en dépit du fait que certaines personnes sont avancées en âge, ils ont encore un état d'esprit de gamin ou un état d'esprit de gamine, en dépit de l'âge. Tout ça à cause de leur état de maturité. Et donc, cet article-là a essayé un peu de soulever un peu la différence qu'il y a entre sortir avec une fille et sortir avec une femme. OK? Et l'auteur de l'article a dit qu'une fille fait des crises de nerfs Quand elle est mécontente, vexée ou en colère, elle réagit exactement comme elle le faisait enfant quand ses parents ne lui cédaient pas. Cela consiste souvent à crier, bouder, ne pas vous adresser la parole, avoir un comportement passif-agressif et ou à punir. Alors qu'au contraire, une femme peut bien sûr être aussi contrariée, elle peut être un peu fâchée, mécontente, mais elle a appris à répondre plutôt qu'à réagir. Elle se présente comme une adulte et elle exprime clairement ce qui la contrarie. Ça, c'est une femme. Allô? On est ensemble jusque-là. Je peux passer au suivant. OK. La deuxième chose, c'est qu'une fille utilise sa beauté physique comme monnaie d'échange et fondement de sa valeur. Ça veut dire qu'elle voit vraiment ses atouts-là comme là où elle trouve vraiment sa valeur. Elle peut être si habituée à se sentir légitimée par son apparence et sa sexualité qu'elle l'utilise comme moyen essentiel d'obtenir ce qu'elle veut dans la vie. Une femme sait que sa valeur va bien au-delà de son physique. Une femme base sa valeur sur son intelligence, sa force, son intégrité, ses propres valeurs, ce qu'elle apporte, son humanité. Allô, on est ensemble? Vous comprenez que, oui, vous pouvez être attractive physiquement, mais ce qui va garder les gens autour de vous, c'est le caractère. Les gens peuvent être attirés par votre physique, mais ce qui va les garder à vos côtés, c'est votre caractère. Et le physique, il change, parce qu'il y a toujours un métabolisme là pour les femmes, et ça change. On peut continuer. Quatrième point. Une fille parie sur un homme pour lui tenir lié des stratégies financières. Allô? Mais une femme préfère être indépendante financièrement. Elle mise sur elle-même. Et si par hasard, elle se retrouve dans une relation où il est logique que son partenaire soit celui qui rapporte le plus d'argent au ménage, elle considère cela comme un bonus, pas comme le plan de sauvetage escompté. Donc les filles, nous sommes dans un monde où on est aussi appelé à travailler quelque part, ou les femmes, ok? On est aussi appelé à apporter notre contribution. Si vous lisez Proverbe 31, vous allez voir que cette femme-là est louée pour sa productivité, pour ce qu'elle apporte dans son foyer. 5. Une fille voit le monde sous l'angle du manque et de la compétition. Une fille, elle est toujours là en train de se comparer aux autres, en train de voir, ah, oui, elle n'est pas live, la mienne n'est pas live. Ça, c'est une fille. Elle est toujours en rivalité et n'hésitera pas à démolir une concurrente pour s'assurer des ressources ou un compagnon. Les femmes s'entraident entre elles. Une femme sait qu'il y a suffisamment pour tout le monde et choisit la voie noble de l'intégrité pour obtenir ce qu'elle veut. Je continue, je ne vais pas beaucoup commenter parce qu'on a beaucoup à couvrir. Une fille n'a qu'à faire des tâches domestiques et est fière de ne pas savoir cuisiner ou faire le ménage. Ça, c'est une fille. Une femme comprend que les tâches ménagères ne sont pas un devoir, mais une façon de prendre soin d'elle-même et des autres. Elle a aussi conscience que si elle souhaite fonder une famille, avoir quelqu'un dans le foyer qui peut contribuer à ses tâches domestiques est important. Allô? Une fille veut l'attention de tout le monde. Elle veut que tout le monde la remarque. Mais il y a un auteur anonyme qui a dit qu'une femme ne veut être adorée que d'une seule personne. Ma femme ne veut être adorée que de moi. Yeah. 8. Une fille ne respecte pas son corps. Elle n'a pas encore compris que son corps et son cœur sont sacrés et qu'elle doit faire attention à sa manière de les traiter et avec qui elle les partage. Vous verrez les filles se poster ici et là sans aucune attention pour leur corps, alors que leur corps et leur cœur sont sacrés. Une femme prend le temps de réfléchir à la personne qu'elle ambitionne d'être, à l'exemple qu'elle veut donner et à sa vision de la vie. Elle a réfléchi à ses valeurs et aux choses qu'elle veut défendre. Une fille n'a pas établi son sens moral ni ses valeurs. Du coup, elle est souvent inconséquente. Elle prend des décisions sans beaucoup trop réfléchir. Ça, c'est une fille. Et dans la liste des qualités recherchées par une fille, les qualités superficielles sont en tête. Quand elle recherche un conjoint ou un partenaire pour la vie, il est superficiel qui commence d'abord pour une fille. Et voici ce que la liste d'une fille peut comprendre. Elle va dire qu'il faut qu'il soit beau gosse. Bon, c'est pas mal d'avoir un beau gosse. Moi, je suis beau gosse, donc comprenez quoi. Donc ma femme, quelque part, elle a un plus quoi. Beau gosse, populaire, portant des jeans slim, il faut qu'il ait 1m80, il faut qu'il soit friqué. Quand il court, il ne faut pas que la sueur sente sur lui. Ça, ce sont les qualités d'une fille. Donc, elle veut que quand son homme, là, même s'il a couru 3 km, qu'il n'y ait pas de sueur. Voici les qualités recherchées par une femme. Que son homme soit d'une grande intégrité, qu'il soit intelligent, qu'il soit gentil, bon, communicant, prêt à s'investir. Tout ça, ce sont des critères. Et donc, ça fait vraiment partie des choses qu'on a vues pour les filles. On peut passer aux garçons. J'espère que chacun s'est situé et qu'on a plus de femmes que de filles. OK. Bien. Pour les garçons, on dit qu'un homme, sait ce qu'il veut et fait tout pour l'obtenir. Un garçon peut avoir une vague idée, mais pas vraiment. Ce sont des personnes sans direction, sans but, sans objectif. Il ne réfléchit pas trop et même s'il le fait, il ne fait pas beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Donc, il ne réfléchit pas trop à ce qu'il veut, à la vision de sa vie. Un garçon est passif. Il regarde seulement la vie se dérouler comme ça. Mais un homme est assertif. Il est actif. Un homme planifie son avenir et s'efforce de construire des bases et une infrastructure afin de fonder une famille à un moment donné de sa vie ou de réaliser un autre objectif. Ça peut être construire une maison, ça peut être payer un véhicule ou une autre passion. Un garçon vit uniquement pour l'instant présent. Il réfléchit seulement à quel est le film que je vais voir ce soir. Il réfléchit seulement à quel est le jeu vidéo que je vais jouer aujourd'hui. Donc, il ne vit que pour l'instant présent. Ça, c'est un garçon. Un homme recherche une femme intelligente qui le soutient, qui a les pieds sur terre et qui partage ses valeurs lorsqu'il choisit un partenaire. Alors qu'un garçon ne s'intéresse principalement qu'aux filles sexy, sauvages et excitantes. Ça, c'est un garçon. Il ne voit que l'extérieur. Un homme sait reconnaître une femme bien, lorsqu'il la rencontre une et prendra l'initiative de faire sa connaissance. Un garçon, au contraire, il est toujours dans les insécurités. Il se demande, je peux lui parler ou pas? Il a encore cette peur-là qu'on avait quand on était encore petit garçon d'aller à l'extérieur pendant la nuit parce qu'on pensait qu'il y avait des monstres fictifs là. Ça, c'est un garçon. Au lieu d'aller seulement lui parler, de lui dire « je vous apprécie, j'apprécie votre comportement », tu es là juste en train d'hésiter. Ça, c'est un garçon. Un garçon peut faire une tentative, mais il abandonne avant même d'avoir essayé. Les garçons abandonnent même avant d'essayer. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux une peur d'échouer. Ils ont un complexe. Ils se disent que quand les gens vont apprendre qu'il est tellement rejeté, ah, je serai la risée de tout le monde. Un homme a le courage d'avoir des conversations difficile. Il est honnête quant à ses intentions. Ils sont honnêtes quant à leurs intentions. Il fait savoir aux gens où il en est. Les hommes sont clairs. Ce ne sont pas des gens qui font des essais-erreurs avec le cœur des autres. Non, ils sont clairs. Un garçon évite les conversations difficiles. Il ignore les confrontations et toute discussion sérieuse sur les sentiments. Au lieu de faire face à une situation, un garçon, il la fuit, il crée des drames, des excuses pour masquer le fait qu'il n'est pas vraiment intéressé par vous ou par votre relation. Un homme sait quand investir dans une femme et s'engager pleinement. Un homme se décide. Il sait quand est-ce que cette relation doit passer à un autre niveau. Il ne va pas vous garder pendant longtemps dans le flou, non. Il sait quand est-ce qu'il faut s'investir et s'engager pleinement. Mais un garçon est toujours en train de tester. Il essaie avec celle-ci, il passe à une autre. Il ne s'engage pas complètement car il ne sait jamais s'il est vraiment prêt. Ça, c'est un garçon. Mais la vérité de son comportement, c'est parce qu'il est garçon. Et peu importe qui il rencontre, il ne sera jamais prêt en raison de son niveau de maturité et du stade de la vie dans lequel il se trouve. Donc, si tu es avec un garçon, j'espère que tu commences à l'identifier maintenant. Et pour ceux qui sont avec des femmes, j'espère que vous l'avez identifié déjà. Un homme, il peut s'amuser à être sociable, mais il est souvent focalisé à faire avancer ses objectifs, sa carrière, construire sa vie. Ça, c'est un homme. Mais un garçon, vous allez le voir passer d'une fête à une autre, passer d'une distraction à une autre. Un homme prend le temps de réfléchir au type d'homme qu'il veut être, à l'exemple qu'il veut laisser et à sa vision de la vie. Il a réfléchi à ses valeurs. Un garçon n'a pas encore établi sa boussole morale ni ses valeurs et par conséquent, il est souvent incohérent. C'est une personne incohérente. Un homme intègre, il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Allô? Il tient ses promesses et passe à l'action. Et s'il ne peut pas les faire, il a le courage de vous dire pourquoi. Un homme est honnête et vous dit voici pourquoi ça n'a pas marché. Un garçon fait des promesses mais ne les tient pas. En fait, il y a beaucoup de cœurs brisés dans le monde à cause du fait qu'on s'est lancé dans des relations avec des garçons ou des filles, et non des hommes et des femmes. Un homme peut avoir peur d'y rejeter, mais se met quand même en avant. Il prend quand même les risques. Il prend quand même les risques de dire « Oui, je vous apprécie ». Mais un garçon a peur d'y rejeter. Ça se rapporte à ce que j'ai dit avant. Et donc, vous comprenez un peu ces quelques différences. Je vais m'arrêter là, qu'il y a entre un homme, un garçon, une femme et une fille. Et si je peux résumer tout ce que je viens de dire, en fait, la différence qu'il y a entre un garçon et un homme, une fille et une femme se résume au mot croissance. Croissance. Parce que le message d'aujourd'hui, c'est développer son potentiel ou la loi de la croissance. Nous sommes appelés à croître. Développer son potentiel est une question de croissance. Nous sommes appelés à croître en caractère, mais aussi en compétences. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir un très bon caractère, mais ils n'ont pas les compétences nécessaires pour accomplir ce à quoi ils sont appelés. Et il y a aussi des personnes qui ont des bonnes compétences, très très bonnes, mais le caractère n'est pas là, il n'y a pas de vertu. Et c'est pourquoi nous devons croître, nous devons développer notre potentiel en passant par un processus de croissance. Et je dois vous dire qu'il y a des processus de croissance qui sont naturels, comme grandir par exemple, physiquement. Il suffit que tu manges bien, que tu dormes, tu vas voir que ton corps va se développer. Mais il y a aussi des processus de croissance où nous sommes appelés à être intentionnels, à travailler nous-mêmes, à grandir. À travailler nous-mêmes, à grandir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes que vous pouvez voir qui sont, oui, grands physiquement, mais en eux, il y a encore l'état d'esprit d'un gamin ou d'une gamine. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'être intentionnels dans leur croissance pour les autres aspects. Pour les autres aspects. Et donc, nous allons maintenant nous demander pourquoi est-ce qu'il est important que nous puissions développer notre potentiel. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 11, versets 12 à 17. Marc chapitre 11, versets 12 à 17. Voici ce que la Bible dit. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Mais même si ce n'est pas la saison des figues, un figuier qui a beaucoup de feuilles comme ça devrait avoir déjà quelques fruits. Prenant alors la parole, il dit au figuier, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans les temples. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. On va s'arrêter au verset 14. Nous voyons Jésus ici. C'est vrai que c'est dans le contexte où Jésus est en train de s'opposer à la religion vide des Juifs. Il dit ces gens ont une religion vide. Ils ont des temples, ils ont des festivals, ils ont tout ça. Mais il n'y a pas la foi en eux, il n'y a pas de fruits. C'est ce que symbolisaient ces figuiers-là que Jésus a maudit. Mais on peut utiliser ces mêmes principes spirituels pour le potentiel. Parce que le potentiel, c'est ce que Dieu a mis en nous, c'est ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Et Dieu attend à ce que nous puissions développer ces potentiels pour que nous puissions nous donner à lui, pour que nous puissions donner à Dieu quelque chose en retour. C'est Dieu qui a créé cet arbre. C'est Jésus qui a créé les figuiers, si nous croyons que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Et quand il arrive devant ces figuiers qui a l'air vraiment d'avoir cru, le verbe croissance, pas croire, ok? Quand il regarde ces figuiers avec beaucoup de feuilles, il cherche du fruit, il n'en trouve pas. C'est ce que je suis en train de vous dire, qu'il peut y avoir des personnes qui ont l'air grands physiquement, mais au fond, en eux, il y a encore un état d'esprit de gamin. Et quand ils cherchent des fruits, ils n'en trouvent pas et ils finissent par faire quoi? Par maudire ces figuiers. La première chose que vous devez savoir de pourquoi est-ce qu'il est important pour nous de développer notre potentiel, c'est que le potentiel est le don de Dieu pour nous et le développer est notre offrande à Dieu. Dieu attend de nous que nous donnons en retour ce qu'il a semé en nous. Mais pour que nous puissions le donner, nous devons nous développer, nous devons porter des fruits. Nous devons porter des fruits. Dieu a placé à chacun d'entre nous des grains, des capacités, des talents, des buts. Mais si nous mourons sans les développer, le monde perd ce que Dieu avait prévu à travers de nous. Nous sommes ensemble jusque-là. Quand nous ne développons pas notre potentiel, Dieu n'est pas glorifié au travers de nous. C'est pour ça que Jean chapitre 15, verset 10 pouvait dire, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Dieu n'est pas glorifié quand il ne porte pas de fruits. Dieu n'est pas glorifié quand il ne développe pas ton potentiel. On est ensemble jusque-là. Quand il ne grandit pas, quand il ne croit pas, Dieu n'est pas glorifié. Quand le monde ne bénéficie pas de ce que Dieu a déposé en toi, sa gloire n'est pas manifeste. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Deuxième chose, développer notre potentiel nous équipe pour la mission que Dieu a prévue pour nous. Développer notre potentiel nous équipe pour accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Au fait, l'erreur du siècle présent, c'est que plusieurs sont exposés à de grands postes de responsabilité. Ça peut être dans un ministère, ça peut être dans une entreprise, alors qu'ils ne sont pas encore passés par la croissance, cette étape-là de croissance qui les prépare à ces grands postes de responsabilité. C'est pour ça que vous allez entendre que dans beaucoup de ministères, il y a des scandales ici et là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des personnes qui ont été mises à de grands postes de responsabilité, mais leur caractère, leur compétence n'était pas encore à ce niveau-là. Mais aussi, au contraire, le monde souffre aujourd'hui parce qu'il y a des personnes qui ont simplement refusé de développer leur potentiel. Développer leur potentiel. Il y a une mission particulière que Dieu a pour toi, mais tant que tu ne t'es pas encore développé, tant que tu n'as pas encore investi en toi-même, tant que tu n'as pas encore fait ressortir toutes ces choses que Dieu a déposées en toi, tu ne seras pas capable de mener à bien cette mission. Il faut développer son potentiel. 2 Timothée chapitre 2, verset 26. C'est vraiment un passage qui va nous faire comprendre très bien ces principes. 2 Timothée chapitre 2, verset 20 dit, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. » Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Paul est en train de donner, je sais que ce passage parle de la sanctification, mais c'est un principe que nous pouvons aussi utiliser pour le potentiel, pour le développement du potentiel. Paul donne une analogie, il dit que dans la maison, chez nous là, il y a des assiettes, des couvercles, des plats, que nous préparons pour des invités d'honneur. Pourquoi? À cause de la qualité de ces assiettes, à cause de la qualité de ces couvercles, à cause de la qualité de ces plats ou de ces verres. Et il y a d'autres qu'on donne à n'importe qui. C'est quand va bro moi en Afrique, on a tous choisi les moyens à plastique, ça kunjama kunjama. C'est ça. C'est ce que Paul est en train de dire. Au fait, vous devez savoir que l'usage dépend de l'investissement. Si vous voulez être utilisé pour toute bonne œuvre, si vous voulez être utilisé pour de grandes choses, il faut investir en vous-même. Il faut que vous soyez quelqu'un ou quelque chose de valeur. C'est là que vous allez être utilisé pour de grandes choses. C'est pour ça que vous devez vous poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on a choisi tel et pas moi? Il faut peut-être regarder quel genre d'investissement, quel parcours cette autre personne-là a par rapport à vous. Quel investissement cette personne a mis en elle-même pour être cette personne ressource auquel les gens recourent tout le temps. Quand il y a un besoin quelconque, on regarde tel, mais pas toi. Est-ce que tu es un vase d'honneur ou est-ce que tu es ces autres ustensiles-là? Je relis ce même passage dans français courant. On dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement de la vaisselle en or et en argent. Il y en a aussi en bois et en argile. La première est réservée à des occasions spéciales. Les tâches spéciales sont réservées aux personnes qui ont développé leur potentiel. Et l'autre est destinée à l'usage courant. Si quelqu'un se purifie de tous les mâles que j'ai mentionnés, il sera apte à remplir des tâches spéciales. Il est entièrement à la disposition de son maître. Il lui est utile. Il est prêt à faire toute bonne action. Et donc, nous devons travailler dur sur nous-mêmes. Je suis en train de vous dire comment est-ce que je me défie. Et je vous appelle, je vous en congé. Il faut vous défier. Il ne faut pas rester statique. Il faut toujours vous donner des défis. Essayez beaucoup de choses. Troisième raison pour laquelle il est important pour nous de réaliser notre potentiel ou de le développer, c'est qu'un potentiel non réalisé ne profite à personne. Quand nous ne développons pas notre potentiel, nous ne contribuons pas à l'avancement de la société. Nous ne servons pas les autres. Je l'ai dit au début, ça ne glorifie pas le Seigneur. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Au fait, nos familles attendent de nous des solutions. Les personnes autour de nous attendent de nous des solutions. L'Église attend à ce que nous soyons ces disciples-là qui s'élèvent et contribuent à son avancement. Mais tant que nous n'avons pas encore développé ce que Dieu a mis en nous, nous sommes inutiles. Nous sommes inutiles. Notre impact est très faible. Le monde attend que le royaume de Dieu se révèle sur la terre comme au ciel quand les chrétiens vivent leur foi de manière authentique. C'est pour ça que Jésus disait, vous êtes la lumière du monde. Le sel de la terre, n'est-ce pas? Le sel de la terre. On va lire ce passage. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Donc, quand on ne développe pas son potentiel, on ne sert pas le monde. Nous ne contribuons pas à l'avancement de la société. Matthieu chapitre 5, 13 à 16. Voici ce que la Bible dit. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, si vous ne développez pas, si vous n'êtes pas un sel de bonne qualité, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il faut manifester tout ce que Dieu a mis en vous. Vous ne devez pas les cacher. Et on n'anime pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est à ça que Dieu nous appelle, à nous exposer, à manifester tout ce qu'il a déposé en nous. Et si je peux même être plus personnel, il y a un homme qui attend que quelqu'un ici devienne une femme pour finalement décider de la marier. Et il y a une femme qui attend que quelqu'un ici devienne un homme pour finalement accepter de cheminer dans la vie avec cette personne-là. Un potentiel non réalisé ne profite personne. À personne. Quatrième chose, c'est que tout ce que nous n'utilisons pas, nous les perdons. Tout ce que nous n'utilisons pas, nous les perdons. Parce que comme les muscles physiques, mais aussi les muscles intellectuels, nos dons, nos talents s'aiguisent quand nous les mettons en pratique. Développer son potentiel prépare à de plus grandes responsabilités et bénédictions. Mais si nous n'utilisons pas ça, Dieu va donner ça à quelqu'un d'autre. C'est même ça le principe de la parabole des talents. Vous savez, Matthieu chapitre 25, ce serviteur-là à qui on avait donné des pièces et il n'a pas multiplié. Vous savez ce que Dieu lui a dit? On lit Matthieu chapitre 25, versets 28 à 30. Il dit, « Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » À celui qui n'a pas, ce n'est pas seulement parce qu'il n'a pas, c'est aussi parce qu'il n'a pas utilisé ce qu'il a. On est ensemble. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors et il y aura des pleurs et des grincements des dents. Il y a des personnes ici qui ont été appelés à une tâche spécifique. Dieu a déjà mis en toi le fait que tu dois faire une tâche spécifique pour l'avancement de son œuvre dans cette église. Et tu ne prends pas cette opportunité au sérieux. Tu n'es pas en train de te présenter. Tu n'es pas présent pour faire ce à quoi Dieu t'appelle.
je vous en conjure, je vous l'ai dit, je vous l'affirme, je vous le confirme, que Dieu prendra ces capacités-là et les mettra dans quelqu'un d'autre. Parce que Dieu se rassure toujours de la continuité de son œuvre. Toujours. Il se rassure toujours de la continuité de son œuvre. Et donc, il est vraiment important pour nous de développer nos potentiels, parce que si nous ne les développons pas, ce que nous n'utilisons pas, nous allons les perdre. Nous allons les perdre. 5. Dieu attend de nous que nous multiplions ce qu'il nous a confié. C'est même ça, la parabole des talents. Il a donné un 10, il a donné un autre temps. Et ces gens-là sont partis faire quoi? Ils sont allés multiplier. Parce que quand nous développons notre potentiel, nous devenons des bons gestionnaires. Nous devenons des bons gestionnaires. Je ne vais pas beaucoup commenter parce que le temps file. Développer notre potentiel. Une autre chose pour laquelle il est important pour nous de développer notre potentiel, c'est que développer notre potentiel inspire les autres. Inspire les autres. Lorsque nous grandissons, quand nous développons, nous devenons un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Vous allez voir que dans une famille qui est passée par un cycle de beaucoup de gens qui n'ont jamais fini leurs études, il suffit seulement qu'une seule personne ait son diplôme d'université. Ça déclenche quelque chose. Ça déclenche un cycle où les autres aussi vont suivre. Pourquoi? Parce que quand on développe notre potentiel, ça inspire ceux qui sont derrière nous. Quand la première personne vient d'avoir ce succès-là, vient d'atteindre ce niveau-là, les autres aussi disent, ah, nous aussi nous pouvons. Parce que quand nous développons notre potentiel, nous inspirons ceux qui sont derrière nous. Notre potentiel, quand il est développé, il peut briser des cycles de limitation dans nos familles, dans nos communautés et même dans nos nations. Quand nous décidons d'être ces leaders dans la nation qui sont intègres, ces leaders-là qui travaillent pour l'avancement de cette nation, ça va inspirer d'autres. Ils vont même avoir honte quand ils se retrouvent dans un cercle de personnes qui, eux, sont en train de faire bien, avec sérieusité, c'est à quoi ils sont appelés. Nous allons passer à un autre grand point, c'est quels sont les obstacles au développement du potentiel. Les obstacles au développement du potentiel, la première chose, c'est de vivre sans vision. On revient encore et encore sur cette question-là de la vision. Quand on n'a pas d'objectif clair pour sa vie, le potentiel reste inutilisé parce qu'on est seulement là. Sans la capacité de voir au-delà de nos circonstances actuelles, on s'impose à soi-même des limites. Quand on est limité à ces circonstances, on se dit, bon, si, bon, tu n'as quoi qu'à tout y vivre, alors tu ne te permets même pas à toi-même d'aller au-delà de ces circonstances, de développer peut-être des mécanismes ou des solutions qui peuvent t'aider à surmonter tous ces défis-là. En fait, quand nous avons une vision pour la vie, quand nous avons des objectifs à atteindre et que nous travaillons pour atteindre ces objectifs-là, ça libère la capacité qui est cachée en nous. Ça libère la capacité qui est cachée en nous. Quand tu te dis que, en tout cas, moi, il faut qu'en 2024, c'est déjà passé, 2026, il faut que j'aille, par exemple, une maison, si tu travailles, bien sûr, ou si un début, ça va libérer une capacité en toi. Tu vas commencer à réfléchir comme quelqu'un qui veut construire une maison. Tu vas commencer à économiser, tu vas commencer à dire, OK, tu vas même commencer à te poser des questions sur comment on fait pour construire une maison. Ça va libérer une capacité qui est cachée en toi quand tu as une vision pour ta vie. Et donc, ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu veux accomplir dans les 5, 6, 10 prochaines années? Réfléchis à ça. Et qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant pour arriver à cet objectif-là? Qu'est-ce que tu fais maintenant pour arriver à cet objectif? Parce que c'est comme ça qu'on développe son potentiel. C'est comme ça qu'on développe son potentiel. Une autre chose qui fait que les gens n'atteignent pas leur potentiel, c'est qu'ils ont peur d'échouer. Parce que la peur nous paralyse et ne permet pas à ce que nous passions à l'action. Les gens ont peur de l'échec, alors que l'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec n'est pas l'opposé du succès parce que derrière chaque succès, il y a une série d'échecs, au fait. Là où on a essayé, ça n'a pas marché, on essaie encore, jusqu'à ce qu'on arrive à réussir. Au fait, les personnes qui craignent de faire des erreurs, de commettre des erreurs, d'échouer, ils ne sont pas en train de prendre tous les risques qui sont nécessaires pour leur permettre de grandir. Je répète ça. Ceux qui craignent de faire des erreurs, n'osent pas prendre les risques nécessaires pour grandir. Il faut des fois se lancer. Ça ne va pas marcher la première fois, mais après, quand tu vas essayer, tu vas voir, ça va marcher. Et en même temps, quand tu passes par ces moments d'échec, tu apprends. Vous savez que les leçons qu'on apprend d'un échec restent plus que ce qu'on peut apprendre dans l'aisance. C'est ça. C'est pour ça que j'ai toujours été inspiré par les personnages de Pierre dans la Bible. Pierre était cette personne-là qui essayait, même s'il n'était pas encore équipé pour tout ce à quoi Jésus l'appelait. Et même Jésus l'a prévenu que tu vas échouer. Mais après que tu aies échoué, Luc chapitre 22, verset 31 à 32, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froments. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, quand tu vas récupérer de cet échec-là, affermis tes frères. Affermis tes frères. Parce que cet échec-là, ça faisait partie du processus de maturation de Pierre. Allô? On est ensemble jusque-là. Une autre chose qui fait que beaucoup de gens ne développent pas leur potentiel, c'est le confort, la zone de confort. Beaucoup de gens sont confortables. Ils veulent se contenter de ce qu'ils connaissent. Ils ne veulent pas se défier ni être défiés. Ils veulent juste faire le strict minimum. Se contenter de ce qu'ils savent déjà. Ils ne veulent pas apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est la zone de confort. Il y a aussi des personnes qui restent dans les succès passés. Ce qu'ils ont déjà fait, les accomplissements du passé, c'est là vraiment qu'ils demeurent. Ça, c'est un ennemi du développement du potentiel. Il y a un mindset de quelqu'un vraiment qui n'est plus dans sa zone de confort que j'ai trouvé dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, où Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Ça, c'est le mindset de quelqu'un qui refuse d'être confortable. Quelqu'un qui veut se défier, quelqu'un qui veut courir vers la perfection. Je peux être plus que ce que je suis aujourd'hui. 4, ce qui limite notre potentiel, c'est aussi ce qu'on a vu dans l'exemple de Gédéon, c'est que c'est notre perception de nous-mêmes. Parce que plusieurs ne se voient pas tels que Dieu les voit. Quand l'ange est venu vers Gédéon, Gédéon a dit, « Je suis le plus petit. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. » Ça, ce sont des pensées et des paroles qui nous limitent dans le développement de notre potentiel. 5, une autre chose qui empêche que nous puissions développer notre potentiel, c'est un mauvais environnement. Quand on est entouré de personnes qui sont limitées, ou négative, ça peut étouffer notre potentiel. Ça peut étouffer notre potentiel. C'est aussi un principe spirituel. Si vous lisez les psaumes 1, on dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » C'est un principe spirituel. Et Paul a même dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Un mauvais environnement peut faire à ce que vous ne développiez pas votre potentiel. Une autre chose qui fait que beaucoup de gens ne développent pas leur potentiel, c'est la paresse, la procrastination et la distraction. On est tout simplement paresseux. La procrastination, c'est quand on reporte à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde de plusieurs distractions. Il y a des gens qui aujourd'hui pouvaient être de très bons avocats, pouvaient être de très bons designers, mais eux, quand on leur a donné leur machine ou bien leur téléphone, c'était vraiment quelque chose pour se distraire. C'était quelque chose pour regarder, rattraper tous les retards des séries que tu n'as pas vu quand tu étais enfant. Frère, là j'avance. Je ne vais pas beaucoup commenter. Une autre chose qui fait qu'on ne développe pas notre potentiel, c'est la tradition et le conformisme. Ça va un peu avec la zone de confort. Il y a des gens qui suivent aveuglément les attentes culturelles. Et toi aussi, tu acceptes. Tu ne veux même pas défier les statu quo. Si tu veux développer ton potentiel, tu dois défier les statu quo parce que les traditions peuvent limiter la créativité et l'innovation. Vous savez ça? Donc nous devons défier les statu quo. Une autre chose qui fait qu'on ne développe pas son potentiel, c'est la peur de la critique et du rejet. Il y a des gens qui ont peur d'être critiqués, c'est pour ça qu'ils n'essayent pas. Quand on va dire que toi aussi, tu penses aussi que toi aussi tu vas commencer à jouer au piano comme Nicolas ou bien les autres pianistes qu'on a ici de talent. Ces genres de critiques-là font que beaucoup de gens ont peur d'essayer. Mais vous devez faire la différence entre la critique constructive et la critique destructive. Ce sont deux choses différentes. Parce qu'il y a une sorte de critique où les personnes qui viennent vous critiquer n'ont pas en eux votre bien-être. Ils viennent seulement vous faire sentir comme quelqu'un d'inférieur. Vous dire, toi aussi, tu penses vraiment que tu peux arriver à ce niveau? Regarde l'autre, comment déjà il est déjà. Ça, c'est quelqu'un qui ne vient pas pour te construire. Mais il y a d'autres critiques qui sont constructives d'une personne qui tient à ton bien-être, d'une personne qui veut que tu puisses te développer. Et cette personne-là t'aborde différemment. Elle va te dire, voilà, tu vois, si tu fais ça et ça, je pense que tu peux arriver au niveau suivant. Tu comprends? Là où tu en es déjà, c'est bon, mais si tu veux aller au niveau suivant, il faut que tu fasses ça et ça. Ça, c'est une critique constructive. Et il faut savoir faire la différence. Parce qu'il y en aura des personnes qui vont vous critiquer, mais il faut savoir faire la différence. Est-ce que c'est pour me construire ou me détruire? Je vais passer directement à la dernière chose qui fait que nous ne développons pas notre potentiel, c'est la négligence spirituelle. Nous avons dit que tout ce que nous avons comme potentiel vient de Dieu. Quand nous ne sommes pas en bonne relation avec Dieu, nous allons échouer. Le véritable potentiel ne peut pas être réalisé si on n'est pas en alignement avec Dieu. Et un des grands exemples de ça, c'est Saül dans la Bible. Saül, c'était quelqu'un que Dieu a choisi. Il a vraiment tiré de loin. Il était vraiment quelqu'un d'inconnu, un berger là. Et il a fait de lui roi. Malheureusement, Saül n'a pas pu réaliser son potentiel. Pourquoi? Parce que sa relation à un moment avec Dieu n'était plus en bon terme. C'est pour ça que quand le prophète Samuel lui a parlé, voici ce qu'il lui a dit. J'aimerais quand même qu'on lise ça. 1 Samuel chapitre 13, versets 7 à 14. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Voici le potentiel que Dieu avait pour toi. Il voulait affermir ton règne pour toujours sur Israël. » En principe, ce que David est devenu, c'est normalement Saül qui devait l'être. « Et maintenant, ton règne ne durera point. » L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Quand nous sommes en train de servir Dieu, quand nous sommes en train d'exprimer le potentiel qu'il a mis en nous, que ce soit à l'église, que ce soit dans nos milieux professionnels, à l'école, nous devons faire attention à notre relation avec Dieu. Nous devons faire attention à ne pas désobéir à Dieu, à ne pas tomber dans des cycles de péché. Parce que ces choses-là sont des blocages qui vont faire à ce que nous n'atteignons pas la stature parfaite de ce que Dieu a prévu pour nous. La négligence spirituelle est un obstacle pour le développement du potentiel. Alors, rapidement, comment développer son potentiel? C'est faire le contraire de tout ce que je viens de dire ici. Première chose, nous devons découvrir les buts de notre vie. Pourquoi Dieu t'a créé? Quelle est cette vision que Dieu a mise en toi? Et la vision, on la découvre en regardant autour de soi. Quels sont ces problèmes que tu as à cœur? Ça, on l'a dit la fois passée. Parce que quand nous connaissons les buts de notre vie, nous focalisons nos dons et nos talents. Deuxième chose, nous devons avoir foi que Dieu a placé en nous tout ce qu'il nous faut pour devenir la personne que nous devons être. Tout. C'est une question de foi. Tu dois avoir foi que Dieu t'a déjà équipé pour résoudre ce problème particulier, pour devenir cette solution-là dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ta communauté. C'est une question de foi. C'est pour ça que j'ai mis Marc chapitre 11. Parce que quand Jésus a maudit ces figuiers-là, voici ce qu'il a dit. Après, en donnant une leçon à ses disciples de pourquoi est-ce qu'il l'a maudit. Marc chapitre 11, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. C'était un miracle, au fait. Parce que même si quand même un figuier était maudit, le processus là de sécher, c'est un long processus. Mais déjà, le lendemain, ils arrivent, ça a déjà séché. Parce que la malédiction que Jésus avait faite, vraiment, elle était efficace, quoi. Voilà. Et Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi. Ayez foi en celui qui a mis ces choses en vous, que vous pouvez les accomplir. Ayez foi en Dieu. » C'est une question de foi. Et je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pour ça que je suis en train de dire, nous devons avoir foi que Dieu a placé en nous tout ce qu'il nous faut pour devenir les personnes qu'il veut que nous soyons. Une autre chose, comment est-ce qu'on développe son potentiel, c'est se cultiver dans son domaine ou ses domaines d'intérêt. Je vous ai dit que dans tous les domaines où je me retrouve, je me cultive. Que ce soit dans l'art, que ce soit dans l'informatique, que ce soit dans la prédication. Je suis quelqu'un qui lit, qui écoute d'autres, qui recherche. Pour arriver à donner un message, tu dois te cultiver. Pour devenir cette personne-là que Dieu veut que tu sois, tu dois te cultiver. C'est pour ça qu'on nous envoie même à l'école. Pour qu'à l'école, nous puissions découvrir certaines choses qui sont en nous et qu'on les développe. Et après, on nous oriente selon ce qu'on a vu. C'est ça l'idéal, bien que des fois ça ne fonctionne pas comme ça dans certaines écoles. Comprenez? Donc nous devons nous cultiver dans les domaines d'intérêt que nous avons. Une quatrième chose pour développer son potentiel, c'est que nous devons être disciplinés et diligents. J'ai dit que beaucoup de gens ne développent pas leur potentiel à cause de la distraction, à cause de la procrastination, à cause de la paresse. Pourquoi? Parce que c'est développer, apprendre, grandir. C'est une question de discipline et de diligence. Quand on te demande de faire quelque chose, tu ne vas pas commencer à discuter, tu vas directement commencer à y travailler. Et ça, tu dois le faire avec persévérance. Il y a quelqu'un qui a dit que la persévérance est la vengeance des sous-doués. En fait, les études ont démontré qu'il y a des personnes qui n'ont pas de grands talents, qui n'ont pas un conscient intellectuel supérieur, mais qui sont en train de réussir dans la vie. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont nées avec des talents innés, mais qui ne se développent pas. Et ce qu'on a trouvé comme différence entre ces personnes, c'est juste leur persévérance. Parce que la persévérance est la vengeance des sous-doués. Les talents seuls ne suffisent pas. Ils doivent être affinés par la pratique. La discipline et la persévérance font que les gens qui ont moins de talents, et même un conscient intellectuel qu'on peut juger inférieur, surpassent ceux qui en ont. Parce que le potentiel grandit lorsqu'il est exercé. Lorsqu'il est exercé. Cinquième chose, j'ai parlé de la zone de confort. Nous devons sortir de notre zone de confort. Ne pas rester dans les succès passés. Ne pas seulement nous contenter de ce qu'il y a. Challenge, défier les statu quo. Parce que le potentiel se développe dans de nouveaux environnements. Parfois inconfortables et exigeants. Nous devons refuser la médiocrité. Refuse la médiocrité. Juste parce que tout le monde est comme ça, ça ne veut pas dire que toi aussi, tu peux être comme ça. Tu peux aller au-delà de ce que tu vois. Sixième chose pour développer notre potentiel, c'est que nous devons nous entourer de bonnes personnes. Je vais parler de compagnie. Nous devons avoir autour de nous des personnes qui vont arroser notre potentiel et pas l'étouffer. Je vous ai dit que moi, je me suis mis à la peinture parce que j'ai fréquenté un artiste à la retraite. Il a vu en moi un petit dessinateur là. Il a dit, non, tu peux être un bon peintre aussi. Parce que ces personnes-là, quand nous les avons à nos côtés, ils arrosent notre potentiel. Ils arrosent notre potentiel. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine avant d'aborder le thème de la semaine prochaine. Amen. Et donc, le potentiel peut être développé. Mais pour que nous puissions les développer, nous devons nous soumettre à ces processus de croissance pour que nous soyons là, ces vases d'honneur-là qu'on apporte pour les tâches spéciales. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier. Je sais que je viens de dire beaucoup de choses. J'espère que le Seigneur a donné à chacun sa part. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu sa part? Ok, merci beaucoup pour ceux qui viennent de lever la main pour montrer qu'ils ont réussi leur part. Alors nous allons chanter ce cantique qui dit « J'abandonne tout à toi ». Toutes les choses je donne à toi sans rien garder en moi. Parce que c'est quand nous nous abandonnons à Dieu, quand nous nous abandonnons à lui pour qu'il puisse encore une fois nous conformer à cette image-là qu'il veut que nous soyons, c'est alors que nous développons notre potentiel et que nous devenons utiles pour toute bonne œuvre. Alléluia. J'abandonne tout à toi. Toutes choses je donne à toi, sans rien garder en moi, sans rien garder en moi, j'abandonne, j'abandonne tout à toi. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi. Veille te servir de moi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Est-ce que quelqu'un peut déjà commencer à le dire par ses propres mots? Seigneur, je m'abandonne à toi. J'abandonne tout à toi, Seigneur, afin que tu puisses encore une fois me forger, afin que tu puisses encore une fois me modeler à ta forme, Seigneur, pour que je sois utile pour toute bonne œuvre, Seigneur. Nous voulons, ô Dieu, que tu puisses nous développer. Nous ne voulons pas être, Seigneur, ces personnes oisives, Seigneur, qui ne se développent pas, qui ne ressortent pas, Seigneur, tout ce que tu as déposé en nous, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons encore une fois nous abandonner à toi aujourd'hui, ô Dieu, afin que tu puisses encore une fois nous développer, Seigneur. Ce que tu as mis en nous, Seigneur, tu veux que nous puissions les multiplier, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme ces serviteurs infidèles, Seigneur, à qui tu as donné des capacités, à qui tu as donné des potentiels, Seigneur, mais il est parti les cacher, Seigneur. Père éternel, nous voulons être de ces personnes qui ne se cachent pas. Nous voulons être de ces personnes qui servent, Seigneur. Enfin, Père éternel, que tu te serves de nous et que tu puisses développer ce que tu as déposé en nous. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu vas continuer à le faire. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu es fidèle. Et nous croyons, Seigneur, que cette parole, Seigneur, que tu viens de s'aimer, Seigneur, elle va porter des fruits, Seigneur, et des fruits qui demeurent. Merci, ô Dieu de gloire.
Je m'abandonne à toi, viens te servir de moi.
Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Tu peux m'aider à dire à ton voisin? Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, mon talent, répète après moi, mon talent, n'est pas à cacher, mais à développer. Mon talent n'est pas à cacher, mais à développer. Ah, mais je ne vois personne dire à son voisin, vous parlez à vous-même. Dis à ton voisin, mon talent n'est pas à cacher, mais à développer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Papa Jérémy. Ah, les temps. J'avais envie qu'on puisse rester ici pendant beaucoup de temps, mais imaginez-vous, on vous invite quelque part, et on vous dit que c'est vous qui devez jouer au clavier comme Papa Joshua là-bas. Parce que tout le monde connaît que non, tu as du talent. Tu arrives comme ça, on te demande de jouer là. Toi, tu joues mi. Tu as dit à tout le monde que tu savais jouer, mais devant là-bas, tu ne fais rien. Alors, mon frère, ma soeur, sachons comment développer notre talent. Ne pas les cacher. Parce qu'au dernier jour, Dieu va vous demander... C'est là. Amen. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les poser. Nous avons la plateforme dans le groupe WhatsApp où on a envoyé un lien pour toutes les questions. Et deux, si vous avez des questions sur place ici, n'hésitez pas aussi à l'écrire quelque part. Vous pouvez les remettre au service des protocoles. Ils vont nous ramener. Et nous avons un groupe WhatsApp où il y a un numéro. Ne manquez pas à poser vos questions.